13h06 pour me joindre en studio, c'est le 88-971-101. 88-971-101. Qu'est-ce que ça dit, Pascal?
Rien.
Ah, rien?
Non. Ah, hey, bonne fête pour la ville de Québec.
Eh oui.
417 ans aujourd'hui.
Exact, exact, exact. C'est 22 degrés sur Québec avec le facteur humidex, c'est rendu à 26 degrés, c'est ce qu'on nous mentionne. Pour aujourd'hui, généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Si ce n'est pas déjà fait dans votre secteur, on parle toujours de risque d'orage pour ce qui est de cet après-midi et ce soir, maximum de 24 degrés. Partiellement nuageux pour ce soir, 40 % de probabilité d'averse. Demain, vendredi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 24 degrés. Samedi, ensoleillé, maximum de 25. Et dimanche, ce sera de la pluie, maximum de 24 degrés.
Sur la route, quelques secteurs névralgiques sur la 138 Est, hauteur de la côte de l'Église, là, dans le coin de Bois-Châtel, il y a une semelle de pneus dans les voies, donc ça ralentit aussi, c'est dangereux pour les conducteurs. Robert Clich, sud, la bretelle vers l'autoroute 20 Est, la voie droite qui est partiellement entravée, il y a une panne. Sinon, je peux aussi vous parler d'Henri IV Sud, bretelle d'accès pour le pont de Québec qui est partiellement entravée, il y a un accident qui est toujours en cours.
David Simard de la ferme Simard est avec nous pour le prochain segment, c'est le plus beau agriculteur au Québec, selon une de nos collègues.
Il a gagné le calendrier d'agriculteur.
Exact. Ouais, okay. Mais ils l'ont mis sur les 12 mois.
Ah, OK. Ouais. De janvier à décembre.
C'est ça. Dans des positions différentes. Ça, je ne rentrerai pas dans les détails.
Tant qu'à avoir un winner.
Exact. Okay. David Simard, salut!
Salut, je te corrige, c'est les 12 mois plus le cover, fait que c'est pour mettre les choses au clair.
Puis le cover, c'était quelle position, sur quelle machinerie?
Ah, écoute...
Faut l'acheter pour le voir.
Hey David, j'ai pensé à toi les derniers jours, j'avais des déménagements à faire, ce qui faisait en sorte que je devais rentrer et sortir de la maison. Puis l'humidité, le facteur humidex, là, était hallucinant pour moi. Je me suis dit, David, lui, il est là-dedans 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24, avec les intempéries, été comme hiver. L'humidité, là, l'impact que ça a sur toi puis les travailleurs, ça peut être quoi? Hein? Vous travaillez plus au ralenti?
Ben oui, c'est sûr que, tu sais, moi, genre, on est des humains comme tout le monde, là, même si on est habitué, le rendement peut être affecté un petit peu, là, mais c'est sûr que moi, j'ai peut-être le pouvoir dans l'entreprise là, de décider un peu des jobs qu'on fait puis des lieux où on travaille. Donc, j'essaye de, tu sais, choisir les jobs. Là,
En conséquence de la météo?
Ben, à conséquence de la météo, puis tu sais, des fois, c'est niaiseux, mais c'est humide. Comme aujourd'hui, c'est humide, mais c'est venteux. Donc, j'essaye de trouver une place exposée au vent pour qu'on travaille l'après-midi. Puis ça donne un petit coup de pouce à mes gars dans le champ. Là.
Mais ça a-tu changé beaucoup ta perception? Parce qu'il y a tellement eu de reportages sur les travailleurs étrangers qu'on amène ici. Il y a des fermes qui ont dépassé les limites, qui n'avaient pas de bonnes conditions. Je sais que tu n'as jamais été visé par ça, David Simard, mais est-ce que vous êtes encore plus consciencieux? Tu parles-tu à tes collègues, tes homologues aussi là-dessus?
Je te dirais que moi, la plupart que je connais, je pense qu'ils sont vraiment corrects avec leurs gars. C'est souvent des cas très isolés, là, où il y a de la maltraitance. Puis, on me pose souvent la question, puis je te dirais que où il y a de la maltraitance pour les travailleurs étrangers, il y en a pour les travailleurs québécois aussi. C'est-à-dire que il y a plein d'entreprises qui traitent mal leurs employés, peu importe le domaine, là. Fait que, c'est juste que, on dirait que, des fois, certains, quand ils voient des travailleurs étrangers qui sont peut-être un petit peu plus, précaires, qui ont vraiment besoin de leur travail, qui n'ont pas nécessairement d'autres endroits où aller parce que c'est des permis fermés, ben, peut-être qu'il y en a qui se gâtent un petit peu plus là, puis ils se disent, bon, ben, mes employés ne parleront pas parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils vont perdre leur emploi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être mal intentionnés là-dedans. Il y a peut-être des gens qui sont juste ignorants aussi, mais dans tous les cas, ça reste des cas isolés. Là.
On a eu de l'eau bien en masse depuis le printemps, là, puis dans les derniers jours, l'eau a tombé et dans les prochaines heures, l'eau va tomber encore. Quel impact que ça a sur tes récoltes? Ça a-tu été positif ou négatif?
Je te dirais qu'il est venu un moment où ça s'en venait quand même sec, là, croyez-le ou non. Là, on a l'air d'avoir un été qui est super pluvieux, mais on a eu une petite période où on a des journées qui sont nuageuses, on a quelques précipitations, mais on n'a pas énormément d'eau qui tombe. Fait que quand la vague de chaleur suit, ben le sol s'assèche. On parle pas de sécheresse, là, évidemment. Là. L'autre, pour l'instant, l'eau est pas un facteur encore. Là. On n'a pas de dommages par l'eau. La pluie tombe. Il y a eu certaines régions qui ont eu des orages violents, mais ça a été, somme toute, très isolé. Puis, de ce que j'entends, là, Rive-Sud, tout ça, là, sont quand même épargnés aussi. Puis au niveau de ce qu'on a eu ce printemps, là, au mois de mai, on a entendu beaucoup dans les médias là, que les gens n'étaient pas capables de semer, qu'il y avait des champs inondés, puis tout ça. Ici, dans la région, disons, là, moi, je suis Côte-de-Beaupré, puis Île-d'Orléans, Rive-Sud, je sais que dans Portneuf, il y en a qui ont été affectés un petit peu, mais ici, ça n'a pas été le cas. Là. On a eu un petit peu moins d'eau. On a peut-être des sols qui sont différents aussi. Mais par contre, là, tout ce qui est Lanaudière, Mauricie, tout ça, là, même aller jusque dans le sud de la province, là, de ce que j'ai entendu, là, c'était vraiment pas un printemps facile là, pour mes collègues.
Par les derniers temps, puis les dernières années, il y a tellement eu de réclamations puis qui étaient totalement fondées pour les agriculteurs qui demandaient au gouvernement de peut-être avoir des compensations quand on perdait énormément de récoltes, quand on travaillait puis qu'on n'était pas capable de vendre parce qu'on n'avait rien au bout du compte, puis vous étiez quand même le garde-manger de la province en entier. Est-ce qu'on a avancé là-dedans? Parce qu'il y a eu des dossiers qui ont pété de partout, en santé, en éducation, il y a eu des grèves, on n'entendait plus vraiment parler de vous. J'ai l'impression que vous êtes tombé priorité 50 pour le gouvernement, c'est pas 175. Est-ce que ça a avancé dans ce dossier-là?
Bien, ça fait déjà 2 ans. Hein. C'est à l'été 2023 où on a eu des problèmes par l'eau. On a eu des demandes. Il n'y a rien qui a bougé jusqu'à l'été 2024. Il y a eu des annonces par la suite de certains programmes, de certaines aides. Mais au final, là... Il y a eu un article justement qui est sorti ce printemps comme quoi l'argent était même pas déboursé. La plupart n'étaient pas capables de réussir à obtenir de l'argent dans ces programmes-là, là, des programmes d'aide pour les ceux qui avaient perdu des récoltes. Moi, j'en ai fait la demande en tant que tel aussi, puis j'ai eu 0$. Là. Le calcul est tellement compliqué que c'est difficile à vérifier, puis c'est difficile à contredire, puis c'est difficile de faire une deuxième demande ou de contester la décision du MAPAC là, lorsqu'une décision est prise.
Avais-tu l'impression que c'était plus du spectacle?
Absolument. Oh, oui. Je veux dire, il y a eu des sommes qui ont été allouées, mais il y a un paquet de programmes dans lesquels on a été coupés. Donc, somme toute, au final, il n'y a pas d'argent supplémentaire qui a été ajouté là, en agriculture dans les 2 dernières années. On a eu l'été passé des annonces pour la relève agricole, je pense à la hauteur de peut-être 4 ou 5 millions. Puis quand à l'automne on est arrivé puis qu'on a regardé les coupures dans les autres programmes à la relève agricole, on arrivait à des coupures de 7 à 8 millions. Donc on donne d'une main, on fait une conférence de presse, on annonce des choses, on annonce des enveloppes, puis dans l'ombre en arrière, on coupe certains programmes, on va chercher les montants ailleurs. Donc c'est le même argent qui est présenté autrement, là, autrement dit.
David, moi, je suis un amoureux des fraises du Québec. Quand je vais à l'épicerie, ben quand je vois 2 produits, un qui vient, je sais pas, moi, d'un autre pays comme les États-Unis puis le Mexique, puis je regarde les produits qui viennent de chez nous, puis c'est à peu près comparable, les prix. Même des fois, je suis capable d'en donner un peu plus si c'est les fraises du Québec, exemple, qui coûtent un peu plus cher, parce que je connais un peu le contexte économique au Québec. Mais ça t'a-tu fait suer de voir que Walmart prenait des fraises des États-Unis puis du Mexique? Une livre de fraises à 1,94 $, David. Tu sais, je veux dire, comment vous pouvez lutter contre ces prix-là? Ça n'a pas de bon sens.
C'est impossible de lutter contre. Là où on va se démarquer, c'est que la fraise du Québec, c'est vraiment pas le même produit en termes de goût, de qualité, de texture, de moyens de produire, de normes humaines, environnementales en arrière de ça. Donc, c'est vraiment comparer 2 choses différentes. Et de la manière que je le vois, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont refuser de consommer les fraises du Québec. Ça va toujours arriver. Il y a des gens qui sont toujours à contre-courant un peu des autres. Moi, dans ma tête, une livre de fraises à 1,94 $ des États-Unis, c'est 1,94 $ trop cher. Je consomme pas ces produits-là, je suis pas capable de les manger.
Penses-tu que c'est pas ta clientèle, point? C'est plus peut-être des gens qui ont vraiment pas de moyens puis qui veulent nourrir leur famille.
Oui,
tu sais.
C'est ça. Oui, il y a ça. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était jeune, des fraises l'hiver, il n'y en avait pas tant que ça sur les tablettes. Là, puis
exact.
Il y en avait, c'était le party, puis on en achetait quand même là, parce que la saison de fraises du Québec durait 30 à 40 jours. Il n'y avait pas de fraises d'automne encore. Les moyens de produire étaient différents. Il n'y avait pas de fraises de serre non plus. Donc, on se garochait dedans, c'est sûr. Là, tant qu'à pas en avoir, c'est aussi bien d'avoir ça à 1,94 $. C'est sûr et certain si tu peux pas te le permettre. Mais par contre, il y a moyen de consommer des fraises du Québec à bon prix quand on sait comment s'y prendre, quand on a le bon timing, qu'on achète des quantités. Puis les fameuses fraises de la veille dans les kiosques puis dans les fermes comme chez nous, des fois, ils nous en restent le soir, on les garde, le lendemain, on les vend moins cher. Ça peut être des très bons deals, là.
Mais tu sais, les fraises de chez Walmart, là, bon, qui viennent du Mexique, quand même 4500 km, là, qui arrivent ici, puis ils vendent ça à une livre, à 1,94 $. David, c'est sûr qu'ils perdent de l'argent. Là. Walmart accepte de perdre de l'argent avec ces produits-là, j'en suis persuadé.
C'est le phénomène de dumping, puis ça, je pense que les gens ont tendance à oublier que ça existe, puis ils savent juste pas comment ça fonctionne. C'est que, puis au Québec, là, dans la fraise du Québec, je crois que, je suis pas persuadé à 100%, là, mais je crois qu'on en fait un petit peu de dumping là, au niveau des fraises là, quand on en a trop sur le marché. Il y a des fermes qui en envoient aux États-Unis beaucoup. Je sais pas à quel prix ça sort, là, donc je peux pas savoir si ça se qualifie de dumping. Mais ça consiste à envoyer le produit le plus loin possible à pas cher. Donc, dans ce cas-ci, là, ces fraises-là, c'est probablement juste le coût des emballages et du transport. Peut-être là, un coût de récolte aussi relié à ça, je suis pas certain. Ça consiste à l'envoyer le plus loin possible de la région où on est pour pouvoir maintenir les prix puis maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande dans la région où on se trouve. Donc, nous, quand on paie des fraises 1,94 en provenance de la Californie, vous pouvez être persuadé qu'en Californie, les fraises ne sont pas à 1,94 à ce moment-là de l'année. Là. Ils sont probablement au prix régulier ou à un prix moyen, un équilibre moyen. Là. Donc, ce phénomène-là, au Québec, on le vit énormément parce qu'on a une saison qui est courte. Puis, quand il y a des pics à des endroits, ben c'est ici qu'ils envoient. Là, c'est souvent ici qu'ils ont le meilleur prix pour leurs produits, même si on est loin.
C'est intéressant ça, David. Sur un axe peut-être un peu plus dans la perspective là, puis dans la réflexion, parce que je sais que tu es annuellement là-dedans, comme n'importe quel président de compagnie, tiens, disons-le comme ça. Le tien est assez précaire. Est-ce que tu as l'impression qu'à travers les prochaines années, ça va être d'autant plus difficile ton métier en termes de main-d'œuvre avec l'immigration? On essaie de faire peut-être des coupures ou de mieux réguler le tout dans la province, au pays aussi. Est-ce que tu penses que ça va être un petit peu plus difficile avec les changements climatiques? Comment est-ce que tu vois l'avenir?
Ben, j'espère juste qu'on est dans le creux de vague, honnêtement, là, parce que 2023 a été extrêmement difficile dans le milieu, extrêmement dans le sens où que il y en a beaucoup qui ont abandonné la profession. Il y a beaucoup d'entreprises qui étaient dans une situation très précaire. 2024, ça a été une saison très bonne au niveau des conditions. Donc, on avait l'espoir, puis on a toujours peur d'avoir une deuxième mauvaise saison de suite, puis de pas être capable de passer à travers. 2025 va être déterminant, ça c'est sûr et certain. Pour plusieurs entreprises, ça va être comme, bon, est-ce qu'on a appris nos erreurs, est-ce qu'on en a profité pour se solidifier, ou si on n'apprend pas, puis on reste précaire, puis si on a deux, trois autres saisons mauvaises, on tombe. Moi, je suis un optimiste, je vois ça positivement. On a fait un paquet de changements dans notre entreprise. On a mis les bouchées doubles en 2024 là, pour se relever de 2023. Les résultats commencent déjà à apparaître en 2025 au niveau de la clientèle, notre mise en marché, tout ça. Donc, tu sais, je suis optimiste. Je suis plus du genre à me relever les manches puis à regarder en avant, là, mais je peux pas parler pour tout le monde. Là,
mais t'es un des derniers Gaulois, surtout dans la région de Québec, à avoir repris l'entreprise familiale dans ce domaine-là, qui est quand même difficile, je veux dire, sur le corps, le mental, dans les ventes et autres. T'as-tu d'autres jeunes auxquels tu parles qui ont fait la même chose que toi au Québec?
Au Québec, il y en a plusieurs, c'est sûr. Tu sais, moi, j'ai pris la relève de mon père. J'avais une entreprise établie. Je l'ai mis à ma main, je l'ai modifié, je l'ai amené ailleurs. Actuellement, le problème qu'on voit, c'est les jeunes qui ne sont pas des relèves directes de producteurs établis. Donc, les jeunes qui ont des rêves agricoles, qui désiraient se démarrer en production, puis qui ont les opportunités sont très, très, très rares. Puis quand ils sont là, c'est pas n'importe qui est capable de saisir cette opportunité-là puis de faire quelque chose avec. Ça prend quelqu'un de très, très, très motivé. Je veux pas comparer à d'autres métiers, je veux surtout pas diminuer ce que d'autres gens font, mais je pense que quelqu'un qui veut se démarrer une compagnie de réno ou de construction demain matin, je pense qu'il y a plus de facilité à le faire qu'en agriculture, parce que les actifs à acquérir pour bâtir un chiffre d'affaires agricole, le multiple est incroyable. On parle de 22 à 25 fois les profits. Donc, si tu t'hypothèques sur 25 ans pour acheter une terre, faut pas que tu fasses trop d'erreurs si ça te prend 22 ans de profit pour la rembourser. Là. Donc, t'as pas une grosse marge de manœuvre. C'est beaucoup là le problème actuellement.
Tu sais, David, point de vue personnel, là, je veux dire, quand tu reprends la ferme de tes parents ou tu veux acheter une ferme puis t'es célibataire, c'est tough en sacrement trouver quelqu'un qui va accepter que son homme soit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Proche de sa terre ou sinon sur sa terre. Là, c'est de la job en sacrifice que vous faites.
Dévouement.
Oui, c'est sûr. Ça prend soit une personne super indépendante ou quelqu'un qui est passionné par le métier et qui décide d'embarquer lui aussi dans l'entreprise. Là, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de très indépendant avec un horaire quand même atypique aussi. Là, faut le dire, en radio, vous n'avez pas des horaires normales.
Mais
on est un mix improbable, mais on est un mix qui tient fort.
Mais t'as pogné le truc, faut que tu y fasses deux enfants super rapidement.
Ah,
elle peut plus se sauver après.
deux, mais là...
Elle peut encore.
Mais ça veut pas dire que ça va arrêter à deux, là, tu sais.
Oh! Ça, on vous laisse, là, parce qu'on veut pas se faire taper ses doigts. Hey, peut-être en terminant, David, avant de te laisser, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis toujours. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui veulent acheter les terres au Québec, les terres agricoles. On perd de notre patrimoine, puis je veux pas dire aux mains de gens qui ne savent pas s'en occuper, mais ils ont peut-être un petit peu plus des idées mercantiles versus nous autres qui, on en prend soin, on veut cultiver les légumes, on n'a pas la même façon de dispatcher nos déchets et autres. Tu vois ça comment?
Ben, je pense que le gouvernement a quand même fait des gestes là pour limiter un peu les achats étrangers là. Puis je pense qu'à l'UPA, il y a beaucoup de pression qui se font encore sur le gouvernement pour légiférer tout ça. Puis ce qu'on voit, ben c'est beaucoup de l'investissement des gens du Québec qui se tournent vers les terres agricoles là en tant qu'investissement. Donc ça crée quand même une rareté là au niveau des terres agricoles là. Puis l'augmentation des prix est assez significative là. Même sans des achats étrangers, là, je dirais que le mouvement est quand même bien entamé à l'interne entre Québécois. Là, dans la capitale nationale, entre 2023 et 2024, l'augmentation du prix des terres, c'est 19 % pour la capitale nationale, puis pour la province au complet, en moyenne, c'est 12 ou 13 % là. Donc, c'est un rendement qui est super alléchant pour des investisseurs qui ont du capital à placer là, surtout en temps d'incertitude économique comme on vit actuellement là, les fonds de terre sont des valeurs refuges là, donc je dirais qu'on le vit déjà là, puis c'est très inquiétant pour le futur de l'agriculture, mais c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus gros que juste le monde agricole.
La ferme Simard, vous travaillez fort. La ferme Simard, c'est cabane à sucre, c'est des boîtes de conserve, c'est des mets préparés, c'est fruits, légumes. Vous offrez des paniers pour la semaine aussi. On peut vous retrouver sur tonpanier.ca, c'est ça?
Oui, le fermesimard.com, là, les deux plateformes là, sont mergées ensemble maintenant. Puis Facebook, Ferme Simard, puis vous pouvez passer nous voir à notre kiosque à Saint-Anne-de-Beaupré. On est ouvert 7 jours sur 7. On a un paquet de beaux produits pour vous autres. Puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir.
Non, arrête de faire des enfants. On la perd tout le temps pendant une couple d'années. Là. C'est plate, là. On aime ça travailler avec Elodie, nous autres. Ouais, on la veut pour nous autres aussi.
Mais tu sais, c'est comme un peu les offres Cadbury, à part que elles viennent un fois de temps en temps. Puis t'es content de l'avoir. Puis quand ils repartent, t'es content qu'elles partent aussi.
Ah! OK, c'est le temps de raccrocher, je pense.
Moi, je te dis ça comme ça. Je suis déçu quand elle repart. Mais bon.
mais moi, je suis content quand elle part. Je l'ai pour moi tout seul. Là, fait que je la partage pas.
Salut David.
Merci David.
Salut. Bye.
David Simard, agriculteur de la ferme Simard, puis tonpanier.ca, je pense que c'est ça, tonpanier.ca ou fermesimard.com, puis vous avez accès à tous leurs produits, ça goûte le ciel, les amis. On vient.